Radio Okapi.
12h à Kinshasa, Babel Pongo pour le journal.
Okapi.
Bonjour, à la une de l'actualité mondiale aujourd'hui, la réélection de Barack Obama pour un second mandat à la tête des États-Unis. Il dépasse une centaine de suffrages de grands électeurs, son adversaire Romney. Une délégation de la Banque mondiale a été reçue hier à Goma par le gouverneur de cette province. Julien Paluku lui a parlé notamment des priorités de cette province, entre autres la sécurité et l'amélioration des conditions de vie de la population. Au Bas-Congo, des ONG signalent une nouvelle incursion des militaires angolais le week-end dernier dans la forêt de Mabunduka. Ils se seraient battus sur place contre des éléments du FLEC. Dupri, c'est la psychose au sein de la population. Barack Obama garde son fauteuil. Il est réélu président des États-Unis avec 332 voix de vote des grands électeurs contre 206 pour les candidats républicains, selon des résultats définitifs. Askenzik Batayoro a suivi pour nous la soirée électorale organisée hier par l'ambassade des États-Unis au cercle de Kinshasa.
Cette élection n'a pas été du tout facile pour les gagnants. Dès le début, Mitt Romney avait pris une avance considérable sur Barack Obama, et cela pendant plusieurs heures. Cet élan a été un signe prometteur pour les républicains qui commençaient déjà à rêver d'occuper la Maison Blanche. Mais hélas, quelques heures après, la donne a changé en faveur de Barack Obama. Le poids des grands électeurs a été un facteur déterminant pour les deux candidats. Si Barack Obama a renversé la vapeur, c'est grâce à quelques États qui régorgent plus de grands électeurs. Par exemple, l'État de Californie qui en a 55, tandis que d'autres États en comptent moins pour Mitt Romney. Le perdant de cette élection a dû se surmonter pour reconnaître la victoire de Barack Obama. Il convie donc le démocrate et républicain à collaborer pour l'intérêt de l'Amérique tout en souhaitant plein succès au président réélu. De son côté, Barack Obama promet de discuter très prochainement avec Mitt Romney pour examiner comment gérer l'Amérique.
Une délégation de la Banque mondiale séjourne à Goma depuis hier. Elle a été reçue en audience hier toujours par le gouverneur de cette province. Conduite par son chef de bureau basé à Nairobi, Alexandre Marc, la délégation déclare être en prospection dans l'est de la RDC. Mais qu'est-ce que les habitants de la province du Nord Kivu, qui vivent dans un environnement d'insécurité récurrente, peuvent attendre de cette institution de Bretton Woods, déjà partenaire du gouvernement congolais à travers le programme Starec? Le gouverneur Julien Paluku pense qu'il est temps d'adopter une stratégie intégrée dans le cadre de ce programme. Il le dit au micro de June Galawamona.
Le Nord Kivu nécessite une démarche intégrée. Lorsque vous touchez un aspect comme le Starec est en train de le faire, lorsque vous ne touchez pas d'autres aspects, vous risquez d'être surpris que ce que vous êtes en train de faire tombe en moule. C'est comme aujourd'hui, tous les bâtiments administratifs, les bâtiments de commissariat de police, les bâtiments de prison qu'on a construits dans les zones rebelles, aujourd'hui, ces bâtiments sont détruits ou alors pillés par les groupes armés. Alors, on aurait dû adopter une démarche qui empêche que cela n'arrive, et ce serait une démarche intégrée. C'est ça l'observation que j'ai pu faire à la Banque mondiale pour dire, ne continuez pas à donner des aides qui vont être diluées dans des activités criminelles. J'ai profité de l'occasion pour donner les grandes priorités de la province. La première, c'est d'abord la réforme du secteur de sécurité. La deuxième, ce sont les problèmes structurels liés à l'eau potable, liés à l'électricité, liés aux routes qui engageraient beaucoup de gens, comme cela a été fait par exemple au Libéria ou en Sierra Leone. Eh bien, on a empêché à ce que les jeunes continuent à se faire recruter dans les mouvements de rébellion.
Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Au Kasaï occidental, une importante délégation du ministère des Finances séjourne depuis lundi à Kananga. Selon le chef de cette délégation qui a rencontré le gouverneur intérimaire, la mission s'inscrit dans le cadre d'une campagne de contrôle et de recouvrement des redevances minières, impôts, taxes et autres droits dus à l'État. D'autres détails avec André Kambala.
L'équipe va aussi vérifier la sincérité des déclarations souscrites par les opérateurs miniers et de carrières. Sont aussi concernés les comptoirs, les entités de traitement ou de transformation ainsi que les tenanciers de drague. Enfin, la délégation va sanctionner les opérateurs défaillants en cas de retard ou de défaut de paiement de la redevance minière ainsi que de la minoration de la somme due à l'État. Selon le chef de cette délégation, deux périodes sont prises en compte. La redevance minière et les frais de dépôt seront contrôlés pour la période allant du 1er avril au 30 août 2011. Les impôts, taxes et autres droits seront contrôlés pour la période du 24 mars au 30 août 2012. M. Kangankalu indique que toutes ces opérations auront lieu dans les contrées où s'effectue l'exploitation minière, en l'occurrence Kikapa, Kamonya, Luebo, Luisa et Dimbelenge. L'équipe a 30 jours pour réaliser cet objectif. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Les ONG de droits de l'homme du territoire de Tchéla dans le Bas-Congo dénoncent une incursion des éléments des forces armées et angolaises FAR le week-end dernier dans la forêt de Mabunduka, dans le groupement de Mbemba. Ces ONG affirment d'ailleurs qu'un accrochage a eu lieu entre les forces armées angolaises et le Front de libération de l'enclave de Kalinda, flex sur le territoire congolais. Ces combats auraient fait un mort. Dani Kindanzita.
Selon ses sources, c'est un pêcheur qui avait aperçu un groupe de soldats des forces armées angolaises de plus de 50 personnes. Ces militaires ont traversé le fleuve Chiluango à l'aide de hors-bord. 30 minutes après, on a entendu une grande détonation et des tirs nourris à l'arme lourde. Tirs qui ont duré près de 3 heures. C'est vers 18 heures que les soldats angolais sont retournés au Kabinda avec des blessés. Pour l'heure, il est difficile d'établir un bilan, ont indiqué le même source. Conséquence de cette situation, la population a peur d'aller en forêt. Sur ordre du chef de secteur, un monsieur est aux arrêts. Il est soupçonné d'être en contact avec les éléments du Front de libération de l'enclave de Kabinda. Aux dernières nouvelles, une forte délégation composée des membres du Conseil provincial de sécurité séjourne à Tchéla. L'administrateur du territoire de Tchéla contacté a déclaré que cette information lui est parvenue comme une rumeur. Une équipe a été dépêchée sur place, a-t-il dit. Il a promis de fournir plus d'informations à ce sujet au retour de cette équipe. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
En province orientale, la cité de Dungu continue d'être envahie par les eaux de rivière. Les ménages perdent de plus en plus leurs champs et leurs maisons d'habitation. Et dans certaines écoles, les cours ne se donnent plus. Jean-Paul Bassila.
Plus de 500 familles ont déjà perdu leur maison d'habitation dans la cité des Dungu, deux semaines après les débuts de la montée des eaux des rivières Dungu et Kibali. La plupart des champs qui entourent la cité sont déjà détruits. Le marché est encore opérationnel, mais on ne sait plus y trouver le manioc, les pondous, les maïs et même les amarantes. Tous ces produits proviennent souvent de Mangiringiri, un village situé à 15 km à l'ouest des Dungu, dont la route est coupée suite à la montée des eaux. Les cours sont déjà interrompus dans les complexes scolaires Bamokandi, Ouando et à la mission Sekavante. Le camp du contingent marocain de la MONUSCO envahi est en train d'être déménagé et seuls des grands camions de la mission onusienne peuvent encore circuler entre la cité et l'aéroport. L'administrateur du territoire est très inquiet et selon lui, même des petites cours d'eau desservant la population pour leur ménage comme Napoussi, Ouye et Nambia connaissent des crues. La même autorité indique avoir déjà saisi sa hiérarchie. En attendant, une mission humanitaire de la MONUSCO survolera les deux principales rivières en furie demain jeudi pour évaluer la situation humanitaire de plusieurs autres villages touché par la montée des eaux. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Le comité de direction de la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, 8e CEPAC, désire ardemment le retour du docteur Denis Mukwege au pays et dans ses fonctions. Dans un communiqué de presse, ce comité demande aux autorités provinciales et nationales de sortir de la léthargie en mettant plus de célérité dans les enquêtes pour découvrir et punir les auteurs de l'attentat contre ce médecin qui fait la fierté de la 8e CEPAC, communauté qui gère l'hôpital de Panzi à l'échelon international. Suivez le révérend Miroho Ngombera, représentant les gars de la 8e CEPAC au micro de Jean Kassami.
Avec la série de malheurs qui ne cessent de s'abattre sur les paisibles citoyens, on s'interroge à chaque coup quelle est la solution de l'autorité au lendemain du triste événement qui est arrivé. La CEPAC a connu un double attentat à l'endroit de ses deux pasteurs, révérend Banyene au Nord Kivu et révérend docteur Denis Mukwege ici à Bukavu, dans le même mois. Et après ces événements, nous n'avons pas encore senti réellement les résultats des investigations de l'autorité. Nous espérons qu'ils vont continuer aussi à s'investir davantage pour sécuriser la population à Goma et à Bukavu.
Le ministre provincial de l'Intérieur du Sud qui vous rassure la 8e CEPAC et tous ceux qui souhaitent le retour immédiat du docteur Mukwege dans cette province. Selon Étienne Babunga, les enquêtes sont en cours et les résultats provisoires sont encourageants jusque-là. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Okapi.